Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 10, chapitre 7. Division. Scène. Deux extrêmes. Karlstadt. Luther. Mysticisme des Anabaptistes. Karlstadt à Ortamund. Mission de Luther. Entrevue au dîner. Conférence d'Ortamund. Karlstadt banni. Tandis que le parti romain tirait partout le glaive contre la Réformation, cette œuvre subissait de nouveaux développements. Ce n'est pas à Zurich ou à Genève, c'est dans Wittenberg même, au foyer du réveil luthérien, qu'il faut chercher les commencements de cette Église réformée, dont Calvin est devenu le plus grand docteur. Ces deux grandes familles ont dormi dans le même berceau. L'union eût dû couronner leur âge même. Mais la question de la Seine, une fois soulevée, Luther rejeta avec violence l'élément réformé et se fixa lui et son Église dans un luthéranisme exclusif. Le chagrin qu'il ressentit de cette doctrine rivale lui fit perdre quelque chose de la bonhomie qui lui était naturelle et lui donna un esprit de méfiance, un mécontentement habituel et une irritation qu'il n'avait pas eue jusque-là. C'est entre les deux anciens amis, entre les champions qui, à Leipzig, avaient combattu ensemble contre Rome, entre Karlstadt et Luther, que cette dispute éclata. Leur attachement à des doctrines contraires provint soit chez l'un, soit chez l'autre, de tendances dignes d'estime. En effet, il y a deux extrêmes en matière de religion. L'un consiste à tout matérialiser, l'autre à tout spiritualiser. Le premier de ces extrêmes est celui de Rome, le second est celui des mystiques. La religion, comme l'homme lui-même, est composée d'un esprit et d'un corps. Les idéalistes purs, comme les matérialistes, en fait de religion ou de philosophie, ont également tort. Telle est la grande discussion qui se trouve cachée sous la dispute de la Seine. Tandis qu'un œil superficiel n'y voit qu'une petite querelle de mots, un regard plus profond y découvre l'une des plus importantes controverses qui puissent occuper l'esprit humain. Les réformateurs se partagent ici en deux camps, mais chacun de ces camps emporte avec lui une partie de la vérité. Luther, avec ses partisans, prétend combattre un spiritualisme exagéré. Karlstadt et les réformés attaquent un matérialisme odieux. Chacun d'eux se prend à l'erreur qui lui semble la plus funeste, et en la combattant, il va peut-être au-delà de la vérité. Mais n'importe, chacun d'eux est vrai dans sa tendance générale, et quoiqu'appartenant à deux armées différentes, ces deux illustres docteurs se trouvent rangés l'un et l'autre sous un drapeau commun, sous celui de Jésus-Christ, qui est seule la vérité dans son étendue infinie. Karlstadt croyait que rien ne pouvait nuire davantage à la véritable piété que la confiance en des cérémonies extérieures et en une certaine influence magique des sacrements. La participation extérieure au sacrement de la Seine suffit pour sauver, avait dit Rome, et ce principe avait matérialisé la religion. Karlstadt ne vit rien de mieux, pour la spiritualiser de nouveau, que de nier toute présence du corps de Christ. Et il enseigna que le repas sacré était simplement, pour les fidèles, un gage de leur rédemption. Quant à Luther, il prit, en cette occasion, une direction tout opposée. Il avait au commencement combattu dans le même sens que nous venons d'indiquer. Dans son écrit sur la messe, qui parut en 1520, il disait « Je puis, chaque jour, jouir des sacrements, si seulement je me rappelle la parole et la promesse de Christ, et si j'en nourris et fortifie ma foi. » Jamais Karlstadt, Zwingli, ni Calvin n'ont dit quelque chose de plus fort. Il paraît même que la pensée lui vint souvent, à cette époque, qu'une explication symbolique de la scène serait l'arme la plus puissante pour renverser de fond en comble tout le système papiste. Car il dit, en 1525, que 5 ans auparavant, il avait soutenu de rudes combats pour cette doctrine, et que celui qui lui aurait prouvé qu'il n'y avait que du pain et du vin dans la Seine, lui aurait rendu un service immense. Mais des circonstances nouvelles vinrent le jeter dans une opposition, quelquefois passionnée, à ses vues mêmes dont il s'était si fort rapproché. Le fanatisme des anabaptistes explique la direction que prit alors Luther. Ses enthousiastes ne se contentèrent pas d'estimer peu ce qu'ils appelaient la parole extérieure, c'est-à-dire la Bible, et de prétendre à des révélations spéciales de l'Esprit-Saint. Ils en vinrent aussi à mépriser le sacrement de la scène comme quelque chose d'extérieur, et à parler d'une communion intérieure comme de la seule véritable. Dès lors, dans tous les essais que l'on lit pour exposer d'une manière symbolique la doctrine de la scène, Luther ne vit plus que le danger d'ébranler l'autorité des saintes Écritures, de substituer à leur sens véritable des allégories arbitraires, de tout spiritualiser dans la religion, de la faire consister non dans des grâces de Dieu, mais dans des impressions d'hommes, et de substituer ainsi au vrai christianisme un mysticisme, une théosophie, un fanatisme, qui deviendrait infailliblement son tombeau. Il faut le reconnaître, sans la forte opposition de Luther, la tendance mystique, enthousiaste, subjective, eut peut-être fait alors de rapides progrès, et eut refoulé tous les bienfaits que la Réformation devait répandre dans le monde. Karlstadt, impatient de ne pouvoir développer librement sa foi dans Wittenberg, pressé dans sa conscience de combattre un système qui, selon lui, abaissait la mort de Christ et anéantissait sa justice, résolut de faire un éclat pour l'amour de la pauvre chrétienté cruellement trompée. Il quitta Wittenberg au commencement de l'année 1524 sans prévenir l'université ni le chapitre et se rendit dans la petite ville d'Orlamund dont l'église était placée sous son inspection. Il en fit destituer le vicaire, se fit nommer pasteur à sa place et, en dépit du chapitre, de l'université et de l'électeur, il s'établit dans ce nouveau poste. Bientôt, il y répandit sa doctrine. « Il est impossible, disait-il, de trouver dans la présence réelle quelque avantage qui ne découle pas déjà de la foi. Elle est donc inutile. » Il avait recours, pour expliquer les paroles de Christ dans l'institution de la scène, à une interprétation que n'ont point admise les églises réformées. Luther, dans la dispute de Leipzig, avait expliqué ces mots. « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » En séparant ces deux propositions, et en appliquant la dernière à la personne du Sauveur. De même, disait Karlstadt, « prenez, mangez, se rapporte au pain. Mais ceci est mon corps, se rapporte à Jésus-Christ, qui se montra alors lui-même et qui faisait connaître, par le signe symbolique de la rupture du pain, que ce corps allait être bientôt détruit. » Karlstadt ne s'en tint pas là. À peine affranchi de la tutelle de Luther, il sentit se ranimer son zèle contre les images. Ses discours imprudents, ses paroles enthousiastes, pouvaient facilement, dans ces temps de fermentation, enflammer les esprits. Le peuple, croyant entendre un second Élie, brisa les idoles de Baal. Cette ferveur gagna bientôt les villages d'alentour. L'électeur voulut intervenir. Mais les paysans lui répondirent qu'il fallait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors le prince résolut d'envoyer Luther à Orlamund pour y rétablir la paix. Luther voyait dans Karlstadt un homme consumé par l'amour de la gloire, un fanatique qui se laisserait emporter à faire la guerre à Jésus-Christ lui-même. Peut-être Frédéric eût-il pu faire un choix plus sage. Luther partit, et Karlstadt dut voir cet important rival venir troubler encore une fois ses plans de réforme et arrêter son essor. Iéna était sur la route d'Orlamunde. Arrivé dans cette ville le 23 août, Luther monta en chaire le 24 à 7 heures du matin. Il y parla pendant 1 heure et demie, en présence d'un nombreux auditoire, contre le fanatisme, la rébellion, la destruction des images et le mépris de la présence réelle, s'élevant surtout avec force contre les innovations d'Orlamunde. Il ne nomma pas Karlstadt, mais chacun put deviner qui il avait en vue. Karlstadt, soit par hasard, soit à dessein, se trouvait à Iéna et était au nombre des auditeurs de Luther. Il n'hésita pas à chercher d'obtenir raison de ce discours. Luther était à dîner avec le prieur de Wittenberg, le bourgmestre, le secrétaire, le pasteur de la ville d'Iéna et plusieurs officiers de l'empereur et du margrave, quand on lui remit une lettre de Karlstadt qui lui demandait un entretien. Il la donna à ses voisins et répondit au porteur. « Si le docteur Karlstadt veut venir vers moi, soit. S'il ne le veut pas, je m'en passerai. » Karlstadt arriva. Sa venue produisit une vive sensation sur toute l'assemblée. La plupart, impatients de voir les deux lions aux prises, suspendirent leur repas et ouvrirent de grands yeux, tandis que les plus timides pâlissaient d'effroi. Karlstadt, sur l'invitation de Luther, s'assit en face de lui et il dit « Monsieur le docteur, vous m'avez mis aujourd'hui dans votre sermon sur le même rang que ceux qui prêchent la révolte et l'assassinat. Je déclare fausse une telle inculpation. » Luther, « Je ne vous ai point nommé, mais puisque vous vous êtes senti atteint, à la bonne heure. » Il y eut un moment de silence. Karlstadt reprit. « Je me charge de prouver que, sur la doctrine du sacrement, vous vous êtes contredit vous-même, et que personne, depuis le temps des apôtres, ne l'a enseigné aussi purement que moi. » Luther, « Écrivez, combattez !» Karlstadt, « Je vous offre une dispute publique à Wittenberg ou à Erfurt si vous me procurez un sauf-conduit. » Luther, « Ne craignez rien, monsieur le docteur. » Karlstadt, « Vous me liez mains et pieds, et quand vous m'avez mis hors d'état de me défendre, vous me frappez. » Il se fit un moment de silence. Luther reprit. « Écrivez contre moi, mais publiquement, et non en secret. » Karlstadt, « Si je savais que vous me parlassiez sincèrement, je le ferais. » Luther, « Faites-le, et je vous donnerai un florin. » Karlstadt, « Donnez-le-moi, je l'accepte. » À ces mots, Luther mit la main à la poche, en tira un florin d'or, et, le donnant à Karlstadt, il dit, « Prenez-le, et attaquez-moi vaillamment. » Karlstadt, tenant en main le florin d'or, se tourna vers l'assemblée et dit « Chers frères, ceci est pour moi à rabot, un gage que j'ai le pouvoir d'écrire contre le docteur Luther. Je vous en prends tous à témoin. » Puis, courbant le florin pour qu'on pût le reconnaître, il le mit dans sa bourse et tendit la main à Luther. Celui-ci but à sa santé, Karlstadt le lui rendit. Luther, « Plus vos attaques seront vigoureuses, plus elles me seront agréables. » Karlstadt, « Si je vous manque, répondit Karlstadt, ce sera ma faute. » Ils se donnèrent encore une fois la main, et Karlstadt retourna chez lui. « Ainsi, dit un historien, de même que d'une seule étincelle procède souvent l'incendie de toute une forêt, on vit d'un petit commencement naître une grande division dans l'Église. » Luther partit pour Orlamunde et y arriva, mal préparé par la scène d'Iéna. Il assembla le conseil et l'église et dit « Ni les lecteurs, ni l'université ne veulent reconnaître Karlstadt pour votre pasteur. « Si Karlstadt n'est pas notre pasteur, répondit le trésorier du conseil de ville, Saint-Paul est un faux docteur, et vos livres sont des mensonges, car nous l'avons élu. » Comme il disait ces mots, Karlstadt entra. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient près de Luther lui firent signe de s'asseoir. Mais Karlstadt, allant droit à Luther, lui dit « Cher monsieur le docteur, si vous voulez le permettre, je vous recevrai. » Luther, « Vous êtes mon ennemi. Je vous ai donné un florin d'or pour cela. » Karlstadt, « Je veux demeurer votre ennemi aussi longtemps que vous demeurerez vous-même l'ennemi de Dieu et de sa vérité. » Luther, « Sortez. Je ne puis permettre que vous soyez présent ici. » Karlstadt, « Cette réunion est publique. Si votre cause est juste, pourquoi me craindre ?» Luther, à son domestique, « Attelez, attelez, je n'ai rien à faire avec Karlstadt, et puisqu'il ne veut pas sortir, je pars. » En même temps, Luther se leva, alors Karlstadt sortit. Après un moment de silence, Luther reprit, « Prouvez par l'écriture qu'il faut détruire les images. » Un conseiller, « Monsieur le docteur, vous m'accorderez pourtant que Moïse a su les commandements de Dieu. » Ouvrant une Bible, « Eh bien, voici ses paroles. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance. » Luther, « Il n'est question dans ce passage que des images d'idoles. » Un cordonnier, « J'ai souvent ôté mon chapeau devant une image qui se trouvait dans une chambre ou sur le chemin. C'est une idolâtrie et qui enlève à Dieu la gloire qui n'est due qu'à lui seul. » Luther, « Il faudra donc aussi, à cause de l'abus, détruire les femmes et jeter le vin à la rue. » Un autre membre de l'Église, « Non, ce sont des créatures de Dieu qu'il ne nous est pas ordonné de détruire. » Après que la conférence eut duré encore quelque temps, Luther et les siens montèrent en voiture, étonnés de cette scène et sans avoir pu convaincre les habitants qui réclamaient aussi pour eux le droit d'interpréter et d'exposer librement les Écritures. L'agitation était grande dans Orlamund. Le peuple insultait Luther. Quelques hommes même lui crièrent « Va-t'en au nom de tous les démons, et puisses-tu te rompre le cou avant d'être sorti de notre ville ?» Jamais le réformateur n'avait encore eu à subir de telles humiliations. Il se rendit à Cale, où le pasteur avait aussi embrassé les doctrines de Karlstadt, et il résolut d'y prêcher. Mais en entrant dans la chaire, il y trouva les débris d'un crucifix. Il en éprouva d'abord une vive émotion, puis, se remettant aussitôt, il en rassembla les morceaux dans un coin de la chaire et fit un sermon dans lequel ne se trouvait aucune allusion à cette circonstance. « C'est par le mépris, dit-il plus tard, que j'ai voulu me venger du diable. » Plus l'électeur approchait de sa fin, plus il paraissait craindre qu'on allât trop loin dans la réformation. Il ordonna que Karlstadt fut privé de ses charges et qu'il quitta non seulement Orlamund, mais encore les États électoraux. En vain l'Église de ce lieu intercéda-t-elle en sa faveur. En vain demanda-t-elle qu'on lui permît au moins d'y résider comme bourgeois, en lui accordant de faire un sermon de temps à autre. En vain représenta-t-elle qu'elle estimait la vérité de Dieu plus que le monde entier, et même que mille mondes, si Dieu en avait créé mille. Frédéric fut inflexible. Il alla même jusqu'à refuser au malheureux Karlstadt l'argent nécessaire pour son voyage. Luther n'était pour rien dans cette dureté du prince. Elle était loin de son caractère. Il le prouva plus tard. Mais Karlstadt le regarda comme l'auteur de son infortune et remplit l'Allemagne de ses plaintes et de ses gémissements. Il écrivit une lettre d'adieu à ses amis d'Orlamund, cette lettre pour la lecture de laquelle on sonna les cloches et qui fut lue à l'église assemblée et fondant en larmes, était signée André Bottenstein, chassé par Luther, sans avoir été ni entendu ni convaincu par lui. On ne peut, sans peine, voir ainsi aux prises ces deux hommes, amis autrefois, et excellents l'un et l'autre. Un sentiment de tristesse s'empara de tous les disciples de la Réformation. Qu'allait-elle devenir, maintenant que ses plus illustres défenseurs en venaient aux mains ? Luther s'aperçut de ses craintes et chercha à les calmer. « Combattons, dit-il, comme combattant pour un autre. La cause est de Dieu, le soin est de Dieu, l'œuvre est de Dieu, la victoire est de Dieu, la gloire est de Dieu. Il combattra et il vaincra sans nous. Que ce qui doit tomber, tombe. Que ce qui doit demeurer debout, demeure debout. Ce n'est pas de notre cause qu'il s'agit. Et ce n'est pas notre gloire que nous cherchons. » Karlstadt se réfugia à Strasbourg, où il publia plusieurs écrits. Il possédait à fond, dit le docteur Scheuer, le latin, le grec et l'hébreu. Et Luther reconnaissait la supériorité de son érudition. Doué d'une âme élevée, il sacrifia à ses convictions sa réputation, son rang, sa patrie, son pain même. Plus tard, il se rendit en Suisse. C'est là qu'il eut dû commencer ses enseignements. Son indépendance avait besoin de l'atmosphère libre où respiraient les Eucolampades et les Zwingel. Sa doctrine excita bientôt une attention presque aussi grande qu'avaient obtenu les premières thèses de Luther. La Suisse parut gagnée. Bucer, Capiton semblèrent entraînés avec elle. Alors l'indignation de Luther fut à son comble. Il publia l'un des plus forts, mais aussi l'un des plus violents de ses écrits de controverse, son livre « Contre les prophètes célestes ». Ainsi la Réforme, attaquée par le pape, attaquée par l'empereur, attaquée par les princes, commençait aussi à se déchirer elle-même. Elle paraissait près de succomber à tant de maux, et certes, elle y eût succombé si elle eût été une œuvre d'homme. Mais bientôt, sur le point d'échouer, elle se releva avec une nouvelle énergie.